Donc moi j'avais une petite remarque en fait qui d'ailleurs vise pas seulement votre intervention. Donc voilà, moi on est d'ailleurs parce qu'on en discute ensemble, on est prof d'histoire géo, ouais. Et on a par rapport à la vision qui est donnée de ce qui se passe dans les classes, on est un peu embêté. Alors après nous on a peut-être évidemment on n'a pas de recul, on est sur le terrain, on n'observe pas ce qui se passe dans les autres collèges, tout ça. Mais c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher un peu de tiquer quand on entend que on travaille pas sur les réfugiés syriens. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, voilà, avec mes quatrièmes, j'ai passé 3 heures dessus, avec des cartes, etc.
J'espère bien qu'il y en ait ici.
Oui, mais... voilà. Et c'est vrai que du coup, enfin, pareil, sur les espaces de débat, il y a des... Enfin, voilà, ma collègue, elle est...
Ouais.
Enfin, je peux le dire, hein, ouais, que,
ouais,
je... Elle est en charge, voilà, d'une salle des débats, avec les élèves, où on discute de ces questions-là. La question des repas, par exemple, on en discute en cours d'histoire-géo, enfin, en cours d'histoire-géo, en cours d'EMC, mais voilà. Et c'est vrai que... Enfin, des fois, j'ai un peu l'impression qu'on a une vision un peu plus noire, quand même, voilà, que ce qu'on fait et ce qui se passe. Et par contre, là où je vous rejoins tout à fait, c'est que c'est super utile et que les sujets de controverse, au contraire, nous, on adore ça. parce que les élèves sont extrêmement attentifs. Il y a une demande de la part des élèves. Et là, moi, honnêtement, c'est dans ces moments-là où j'ai l'impression de faire mon travail. C'est par exemple sur les croisades, mais c'est super intéressant. Enfin, c'est une expérience toute récente. Hein, je suis en retard dans mon programme, donc je fais seulement les croisades. Mais un élève qui dit mais si de quoi vous vous plaignez après qu'on ait dit les chrétiens ont attaqué. C'est super comme question parce que du coup, je dis attends, c'est qui ce vous, pourquoi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, on se sent utile. Si le gamin il pose pas la question, c'est dramatique. Et au contraire, je trouve ces sujets-là, je crois qu'il y a beaucoup de profs d'histoire géo en tout cas, qui les accueillent avec avec enthousiasme presque.
Ouais. Je vais rebondir immédiatement sur la dernière. Ce sont les profs. Alors, ma première réponse, c'est que les profs d'histoire géo, en effet. Moi, je déplore que ce ne soit pas plus transversal comme affaire, cette histoire d'éducation morale et civique, hein, ce qui était la vocation un peu de la chose. Et que vous êtes par, définition, c'est le premier élément de réponse. Vous êtes un peu le fer de lance quoi, de cette affaire. Et ça ne m'étonne pas que vous disiez ça, et je m'en réjouis. Le deuxième point, puisqu'on est sur quelque chose de discrimination, c'est que je n'ai pas spécifié, mais vous l'aurez peut-être compris, je ne sais pas où vous exercez, mais je parle de territoires spécifiques où sont concentrés des problèmes de pauvreté. Et des problèmes ethniques. Et la question est celle de... Moi, je travaille en ce moment en Nîmes sur le terrain. Les enseignants, mais redoutent. Mais on les comprend. Ils ont peur que ça prenne feu à tous les moments dans la classe si on aborde les questions de politique et sociopolitique actuelle. Donc c'est plus... Il me semble, pour lire ce que font mes collègues et ce que pour mes propres travaux, il s'agit plus de certains territoires sur lesquels sont concentrés des problèmes de pauvreté, de discrimination, d'accès à l'emploi, à l'éducation, etc., et d'inégalités scolaires. Donc, je ne sais pas où vous travaillez, mais si vous travaillez en plus dans un quartier, alors là, c'est vraiment super. Voilà.
Je pense que ce qui est intéressant de se dire, entre ce que dit Geneviève Zonnet et ce que vous dites, il y a effectivement plein d'équipes qui ont des ressources. C'est la question de tous ceux qui n'en ont pas. Et quels sont les espaces de formation qui sont aménagés par l'institution pour que ceux qui n'en ont pas se les construisent. Et ce que relève Geneviève, c'est qu'il y a quand même une tendance assez forte ces dernières années où ces espaces de formation organisés dans un certain nombre d'académies, pas partout, sont plutôt de cet ordre-là, et qui ne sont pas en fait des choses qui permettent de se construire, de s'étayer professionnellement dans son travail.
Stéphane, pardonne-moi, c'est à tel point que dans les SP, parce que ce qui est important, c'est ce qui remonte, c'est ce qui forme aujourd'hui les anciens, ça n'existe pas.
Donc, je suis désolée, encore professeur d'histoire-géographie, pas sur le même terrain, sur Grigny, dans le 91. Et on rencontre beaucoup de jeunes enseignants qui ont peur, il n'y a pas d'autre mot, de se lancer sur ces programmes-là.
Mais on ne les aide pas, n'est-ce pas?
Voilà. Et donc, je reparlais de la formation, on en parlait hier. Et alors nous, bien sûr qu'on le fait, peut-être nous, parce qu'on est peut-être plus anciens sur ces terrains-là. Bon, ça fait 5 ans que j'enseigne, et puis toujours un RED+, etc. Mais on a sur des progressions, on voit bien que, ce programme-là, je vais le faire beaucoup plus tard, ou après mon inspection, on entend, par exemple. Ça, c'est du courant, c'est très courant pour des jeunes enseignants. Et là, il faut entendre aussi leur souffrance parce que Même si je leur dis, venez dans ma classe, regardez, il faut dédiaboliser tout ça, ça se passe bien, etc. Moi, je pense qu'il faut comprendre aussi le fait qu'ils ont aussi la pression extérieure, oui, qu'ils ont aussi, ils sont nommés, moi, je vois dans mon établissement, 50% de changements tous les ans au niveau des enseignants, avec des jeunes enseignants qui arrivent de Pau, de Tarbes, etc., qui se retrouvent à Grigny, avec des papas qui refusent de serrer la main du professeur principal parce que c'est une femme. Il y a tous des codes, etc., qu'il faut qu'ils apprennent petit à petit, qu'il faut qu'ils se fassent aussi. Donc je pense que là-dessus, il y a vraiment un travail énorme à faire, honnêtement. Voilà.
Okay. Oui, mais je suis d'accord avec vous et je me réjouis à chaque fois. Et à chaque fois, je me dis, bien sûr qu'il y a des jeunes en plus là. Mm-hmm. Des jeunes enseignants qui prennent ces choses. Alors, vous êtes des profs d'histoire et géographie, mais on prend ce qui vient. Et puis c'est par vocation, c'est vous qui êtes au combat. Mais j'en connais beaucoup d'autres qui refusent. Et ce que je pointe, surtout, j'aime bien dire, je regarde Salim qui est avec moi à Montpellier là. Ce que je pointe, c'est qu'à l'ESP, je n'ai pas fait d'enquête, Fabrice Dume là-dessus, mais je ne sais pas, on ne prend pas à bras le corps ces questions-là dans la formation.
Je voudrais juste compléter malheureusement un exemple qui vous rejoint. Donc moi je suis CPE stagiaire dans l'Académie de Lyon. Et précisément, c'est des choses qu'on a pointées. Enfin, en fait, il y a aussi le fait qu'on a des parcours différents. L'an dernier, j'étais inscrite en Master 1 pour justement pouvoir bénéficier de la préparation au concours. Mais ayant moi-même un Master, j'avais déjà pas les mêmes attentes que d'autres collègues qui, eux, n'avaient pas de Master. Et effectivement, à chaque fois, on essayait un petit peu de pointer. Il y avait quand même des choses comme ça qui émergeaient, des questionnements. Moi, j'étais plutôt dans une demande de questionnement, d'échange, de réflexion. Et plusieurs fois, on s'est fait un petit peu pointer du doigt ceux qui avaient un petit peu cette attente par nos collègues qui, eux, étaient en demande. Oui, enfin bon, il faut qu'on avance, il y a le programme, etc. Et qui n'étaient pas très contents dès qu'en fait, on posait un petit peu des réflexions. Voilà, où il faut qu'on échange, hein, il faut qu'on discute. Et nous, moi, ce que je dis, non, mais attendez, d'accord, il y a le master, d'accord, il y a le concours, mais enfin bon, à un moment donné, on va y être. Hein, donc, il va falloir quand même un petit peu échanger. C'est peut-être le lieu aujourd'hui pour profiter. Mais bon, c'était pas résolu. En même temps, je jette pas la pierre à l'ESP. Hein, je sais pas moi comment après ils peuvent organiser cette. C'est pas évident non plus, hein, voilà. D'organiser.
Je voulais simplement rappeler un tout petit peu les propos de Pierre Kahn hier.
J'y suis aussi. Hein.
Oui. Pierre Kahn qui rappelait hier à quel point c'est compliqué. On va pas tout. C'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui, mais on est dans une situation qui est très compliquée. On évoquait la responsabilité de l'ESP, elle est réelle, elle existe, mais les contraintes, elles sont terribles. C'est l'intégration dans le cadre de l'université qui fait que, par exemple, il est impossible d'obtenir des heures de TD pour pouvoir faire quoi que ce soit. Quand on a voulu monter des formations, justement, sur la mise en place de l'EMC, on nous a dit, OK, c'est en cours magistraux, donc vous voyez ce que ça peut donner, ça n'a aucun intérêt. Les contraintes techniques, elles sont considérables et elles nous empêchent de mener à bien les choses. Donc on bricole.
Ouais. Voilà. Alors le bricolage c'est noble, hein, puis les accommodements, les arrangements c'est noble. Mais je pense pas que ce soit simplement des contraintes techniques. Je pense qu'il y a une forme de panique à vouloir prendre ces questions à bras le corps. Vraiment, je le crois parce que je crois que techniquement on devrait pouvoir. On arrive à organiser des tas de trucs à l'ESP, hein, et bien, hein, pédagogiquement, didactiquement, somme toute. On forme pas des imbéciles. Bon, on arrive à faire des choses. Bon. Je ne sais pas si c'est uniquement technique, cette affaire-là. Je crois qu'il y a une crainte, une peur, un refus. La question du voile des étudiantes dans les SP s'est posée. Alors, on a tergiversé première année, deuxième année, quand ils sont étudiants, quand ils sont en stage, etc. Il y a de l'identité, il y a du majoritaire et du minoritaire. Il y a un problème de... L'identité, c'est un peu... L'ESP, c'est un peu la courroie de... C'est l'école normale. Enfin, donc c'est la courroie de transmission de l'idéologie. Et là, s'y jouent tous les conflits, toutes les tensions, toutes les... Et je crois que c'est ça qu'on vit. Enfin, moi, je suis à l'ESP en tant qu'anthropologue à Montpellier. Je suis ravie d'être là parce que j'y trouve une utilité. Mais c'est difficile en même temps.
Tu veux dire que l'ESP est aussi un établissement comme les autres?
Un petit peu où on réfléchit aussi. Hein,
oui, non, mais où il y a des espaces à la marge qui sont difficiles à organiser.
Je crois que Françoise Lorcerie, on en parlait, est arrivée à... je ne vais pas dire à s'infiltrer, il ne faut pas exagérer. Mais à travailler avec l'ESP à Marseille dans des conditions qui la satisfont, même si c'est avec un public réduit, sur ces questions-là. Et je le fais aussi, j'essaie aussi de le faire, moi, bien sûr. à Montpellier. Mais je crois que ce n'est pas technique seulement. C'est, je comprends qu'on puisse le dire hein, quand on est du côté de M. Kahn. Je vous comprends. Je vous ai complètement déprimé, là.
Peut-être, moi, j'aimerais peut-être juste... je te passe la parole. Ramener peut-être une petite situation que nous, on a observée lors d'une recherche dans un collège REP Plus, pas très loin d'ici, où on a observé une séance d'histoire, la première séance d'histoire dans une sixième SECPA. Et je voulais juste vous ramener cette situation parce que, au-delà de l'EMC, au-delà de ces espaces de débat, il me semble qu'on a aussi des choses à jouer aussi avec les disciplines scolaires. Et donc, ce prof de SECPA, donc, qui est professeur des écoles de formation, première séance avec ses élèves, il leur écrit une question au tableau. D'où viennent les hommes? Et puis, il leur demande d'écrire la réponse, ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, dans leur cahier d'histoire. Donc vous imaginez la variété des réponses qu'on peut avoir, du ciel, du singe, de Dieu, du paradis, on a une variété de réponses. Et il ne s'est pas arrêté là. Il leur a donné un polycope sur lequel il y avait un conte éthiologique africain, un extrait de la Bible, un texte historique sur l'apparition de la race humaine en Afrique, et un poème. Et puis... Il a essayé de voir avec les élèves, il leur a fait lire ce qu'ils avaient écrit, et il a essayé de mettre dans les catégories des textes ce que les élèves avaient écrit. Je vous dis ça parce que, ce faisant, il me semble qu'il fait quand même une chose, c'est qu'il légitime les croyances et les pensées des élèves comme des objets normaux de la culture humaine.
Oui, c'est ça.
Et donc, en tant que tel, légitime dans l'espace scolaire. Et deuxième chose qu'il a faite, il a travaillé sur l'étymologie du mot histoire, historia, enquête, et il a travaillé vraiment avec eux sur, voilà, quand on est en histoire, de quoi on va s'occuper et de quelle manière on va le faire. Vous voyez, à la fois, il y a une forme de légitimation d'autres objets qui ont aussi leur place, mais dans d'autres espaces et oui. moments de l'école, en français, ou, voilà, ou en art, ou... Et puis, en même temps, il est au plus profond de la discipline qu'il a à enseigner à ce moment-là, l'histoire, en montrant que voilà, il y a un certain nombre d'approches, de regards sur le monde qui sont légitimes, mais qui vont pas être l'objet de cet enseignement-là, parce que ça ne correspond pas à la méthodologie de cette discipline-là. Et il a fait avec des systèmes SECPA, dont un certain nombre étaient dans cette recherche, c'était une recherche sur le décrochage et comment les élèves basculent dans le décrochage, des fois, à la bascule de CM2 6e. Ben, ces élèves-là, en SECPA, avec ce prof, je peux vous dire qu'ils étaient à fond, même s'ils avaient été repérés comme potentiellement décrocheurs, y compris par les enseignants de CM2. Voilà, il me semble que c'est ouais. un contrepoint d'une pratique concrète en classe qui me semble aussi éclairer un peu le propos de Geneviève, cet aspect anthropologique.
Ouais. C'est très intéressant. Il me semble qu'on pourrait mettre à plat comme ça, identifier des gestes, des je ne sais pas dire bonne pratique, puisque c'est ancien, mais qui permettent de légitimer un peu les croyances, les représentations à certaines places des élèves. Et de la même façon, associer, mais ça c'est une idée comme ça que je lance, associer les acteurs des collectivités territoriales. Les faire travailler avec les acteurs de l'éducation nationale. Parce que c'est quelque chose de là, sur la question de l'alimentation et des cantines, c'est je vois pas que ça puisse s'arrêter, ce qui se passe là. Je vois pas que ça puisse s'arrêter si on n'invente pas des façons de parler ensemble, tout ça. Mais c'est parce que si on confond maintenant aujourd'hui, dans ce que j'ai entendu par exemple, le fait de revendiquer pour les mamans musulmanes de manger végétarien, ça n'est pas accordé dans certaines municipalités parce que ce serait une façon cryptée de demander de manger de manger communautaire. Donc le végétarien, non, parce que ce serait céder à une demande communautaire. Donc bon, là. C'est pas du tout libéral. Voilà, donc je pense que faire travailler aussi, peut-être, d'une façon innovante, expérimentale, des acteurs en responsabilité hein, de domaines de questions éducatives avec des enseignants.
Peut-être juste une dernière petite chose par rapport à ça, se dire est-ce que c'est innovant, etc. J'imagine que là, les trois profs d'histoire géo qui sont là sont en train de se dire mais en fait, c'est pas innovant, ça fait partie des choses qu'on fait, etc. Peut-être aussi se dire que si on est là, c'est peut-être qu'on n'est pas non plus un prof lambda. Et je pense que tout l'intérêt, ouais. justement, de ramener des regards de chercheurs qui, eux, vont sur des territoires, font des enquêtes, quelquefois ciblées sur un établissement et puis d'autres fois ciblées sur de nombreux établissements. établissements. Je pense que c'est justement là tout l'intérêt de leur travail et de leur regard par rapport à nos pratiques à nous qui sommes là. Et c'est peut-être pas pour rien non plus si on est là, c'est pas, certainement parce qu'on est déjà engagé dans une démarche de questionnement par rapport à tout ça.
Non mais c'est pas ça, c'est que c'est... Moi j'aime bien aussi quand il y a des choses positives qui sont dites et c'était un peu négatif encore, ouais. Donc voilà, c'était... Là, je voulais juste redire dans l'Académie de Lyon, là, ouais. Ma collègue l'a déjà dit hier, bon c'est parce que ça nous énerve un petit peu quand même, on a une journée qui nous a été imposée là le mercredi 30 mars, une après-midi de formation autour de la sécurité, autour de... enfin, des thématiques... sans explication aucune, hein, je veux dire, on a un mail, transmettez à vos stagiaires, donc... C'est même pas situé, contextualisé, rien du tout. Toute seule, j'ai recherché en voyant que c'était pas nouveau. Je me dis, non, mais ça sort d'où ce truc ? Apparemment, c'est pas nouveau, c'était déjà fait. Enfin bon, voilà, avec les services de gendarmerie, de l'armée. Enfin, je vous avoue que voilà, ça nous interroge, nous, dans le cadre de notre formation à l'ESP, en tant que futur CPE, enseignant. C'est voilà. Moi, j'ai plus l'impression qu'on va nous formater plutôt qu'on va nous faire réfléchir. Après, je suis curieuse de voir le contenu. Je me dis, voilà, peut-être que je vais être agréablement surprise, mais franchement, j'ai un petit peu des doutes. Ouais.
Moi, je comprends pourquoi vous vouliez pas revenir en arrière sur la remarque positive de Stéphane. Mais c'est je comprends, oh, oui. Encore une fois, la question du partenariat. Je sais pas ce que tu en penses ou ce que vous en pensez les uns les autres, mais de s'ouvrir, de collaborer transversalement avec d'autres, avec des acteurs des collectivités territoriales, hein, qui sont en charge de questions éducatives, moi, me paraît très intéressante. Et ce que je vois en ce moment, d'un certain, sur mon terrain, faire discuter les ALAE, par exemple, avec un, qui relève de la collectivité, avec des enseignants, les engager dans des projets communs, inventer des choses communes comme ça, dans le primaire, par exemple, je vois ça, me paraît une bonne façon de, mais d'aborder des questions concrètes, pratiques, hein, voilà, qui sont sur un autre versant que celui que tu avais évoqué, très intéressant, qui est le versant pédagogique, là, pour le coup.
Professeur d'histoire géo également. J'ai beaucoup aimé cette formation, mais en même temps...
Je sais pas où vous êtes.
Pardon ?
Je ne vous vois pas.
Pardon. En même temps, moi, dans mon enseignement, j'ai jamais eu peur du débat, de discuter avec des élèves, que ce soit de la religion en tant que fait religieux. Ouais. De toute façon, nos programmes nous y invitent fortement à le faire. Par contre, au bout de 3 jours... je me rends compte que mes élèves, ils comprennent, je leur explique la loi sur la laïcité, ils comprennent même que la loi, elle interdit pour protéger, même si dans leur pratique à eux, ils le prennent comme une injustice. Au final, quand on en débat avec eux, ils comprennent l'ordre public, le bien pour tous, etc. Mais après, c'est quand ils sortent de la classe, oui. Et que dans les pratiques enseignantes, et puis même, on le voit bien, le débat sur la laïcité, communautarien, libéral et tout ça, selon le chef d'établissement, selon le professeur, selon notre définition de la laïcité, notre conception, au final, un professeur va accepter, le bourdonnat ne va pas faire de remarques, tout ça même plutôt bien, oui. D'autres diront, non, je ne veux pas accepter cet élève en cours. Et du coup, nos élèves, en fait, ils sont confrontés à notre indécision, notre trouble aussi, notre doute par rapport à ça. Et je me pose la question, est-ce qu'il faut avoir une seule définition de cette laïcité, une seule conception? Comment on fait au final pour avoir effectivement quelque chose de commun? Et est-ce qu'il faut l'avoir? C'est ça. Et du coup, là, au bout de 3 jours, je vais revoir mes élèves, on va en rediscuter, et je me pose cette question, comment en fait ils vont comprendre notre enseignement et ce qu'ils voient dans le quotidien, quoi. Puis même moi, honnêtement, par rapport à mes collègues, on est toujours confronté à cette question. Comment tu vois, pourquoi est-ce que tu prends la tête à cet élève pour ça? Enfin, j'en parlais hier avec mes collègues qui sont professeurs référents SCPE. Moi, ça m'interpelle quand le chef d'établissement ou l'adjoint reprend une élève parce qu'elle a un bandana. Alors qu'il n'y a pas de comportement, particulier, oui, ou prosélyte, mais dans le couloir, vous l'enlevez. Et en même temps, vu les 3 jours de formation, je peux comprendre, c'est une conception de la laïcité, mais elle n'est pas, déjà, elle n'est pas défendue. Il n'y a pas de cadre, en fait, réel là-dessus. Et moi, je trouve ça compliqué, du coup.
Ouais.
Plus compliqué qu'il y a 3 jours, en tout cas.
Ça, c'est un compliment, Stéphane. Hein. C'est un compliment. Si c'est plus... Là, je vous renverrai plutôt l'expo. Enfin, non, c'est... l'exposé précédent a bien identifié des idéotypes, hein, des types, en tout cas. Mais c'est vrai que quand vous dites, hein, j'explique à mes élèves, moi, je me réjouis que vous soyez troublés parce que. Moi, en faisant tous ces terrains-là, en faisant ma démarche de recherche, en étant anthropologue, je suis très troublée tout le temps. Parce que, au fond, quand vous dites une laïcité qui est interdite pour protéger, moi, je vous dis ce matin, c'est un choix. On peut protéger autrement. Je veux dire, un certain nombre de pays, nombreux, Allemagne, Danemark, Grande-Bretagne, vous allez me dire qu'ils ne sont pas épargnés, mais nous non plus. Enfin, Pays-Bas, Espagne, Suisse, admettent formellement le port du voile dans l'établissement public. Alors, interdire pour protéger, oui, si vous voulez, mais... on ne va pas revenir sur ce port du foulard, mais c'est quand même une fixation un petit peu. Et puis, c'est quelque chose qui fait qu'on va de plus en plus loin. Bientôt, ça va être les jupes longues. Vous parlez du bandana et tout ça. On ne s'arrêtera pas si on ne prend pas les choses autrement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Comment on vit ensemble? Est-ce qu'on est capable d'admettre le doute? Est-ce qu'on est capable de trouver des choses communes qui dépassent les façons d'être habillé ou de faire référence à une religion ou de manger? Et si vous doutez, je n'ai pas de réponse, hein, et si vous avez été amené à douter, je crois que c'est à mettre au crédit de la formation.
Ce que je voulais dire simplement, c'est comme dans le jazz, hein. L'improvisation, ça ne s'improvise pas, il y a une série. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait aussi ouvrir, c'est-à-dire que l'institution, n'a pas besoin de s'appuyer sur les travaux de Foucault, elle a un discours, mais son discours, en même temps qu'il inclut, exclut. Donc le discours inclusif, il est exclusif. Et actuellement, sans supposer des mauvaises intentions, etc., il y a des logiques et des dispositifs. Les maquettes, c'est intéressant de réfléchir sur ça, universitaires en sont une, mais c'est parce que les dispositifs de pouvoir fonctionnent bien dans l'université qu'ils sont reproduits dans les espèces. Il faut quand même... ce qui s'appelle la hiérarchie, au sens fort du terme, une autorité sainte. Ça, c'est le premier point. Puis deuxièmement, l'institution, on le voit bien aussi au niveau national, au niveau du ministère, on voit bien... La surenchère, par exemple, ce que Valls a sur... Et on voit bien qu'elle est obligée de faire ce que tu dis, c'est-à-dire de produire un discours de maîtrise du côté de la technique, des ressources, etc. Et en même temps, la technique, on sait très bien qu'elle occulte des champs de visibilité pour produire des dispositifs d'agencement, de volonté, de puissance, pour le dire rapidement. Donc la seule chose qui puisse être faite rapidement, et ça c'est positif, c'est pas qu'une constatation négative, parce que je ne pense pas que le dialogue habermasien soit une solution, c'est même plutôt un effet conséquentiel d'une théorie qui avoue son impuissance pratique, c'est qu'il faut modulariser les interfaces institutionnelles et faire en sorte que, par exemple, les recteurs, les inspecteurs, les directions, les secrétariats techniques et juridiques des rectorats soient en interface avec les communautés éducatives, les familles, les acteurs de la société civile, les associations, etc. C'est évident. Sinon, la société va imploser. Parce que le résultat, si on veut être pragmatique et conséquentialiste, le résultat, c'est qu'à l'ESP, par exemple, où nous officions, on a exclu pratiquement tous les élèves qu'on voulait inclure, tous les étudiants qu'on voulait inclure. Et de par ma position, ils me le disent. Ils me disent, nous, on ne veut plus être enseignant, ça ne nous intéresse plus, parce que c'est trop difficile. Ça nous demande, il y a des blessures, ça nous demande d'une certaine manière, des processus imaginaires et fictionnels que Sayad a bien analysé, mais lui, dans le monde du travail, avec la double absence, qu'on ne peut pas faire, parce que le gain symbolique, est, en termes d'économie morale, est trop coûteux et trop dispendieux. Voilà. Et donc il y a des logiques comme ça qui se mettent en place, qui sont des logiques d'exclusion, de maximisation de la violence dans la société civile par ce dispositif vertical. Et je pense que faire lire à des étudiants, par exemple, Race et Histoire de Lévi-Strauss, ça permettrait de comprendre qu'il y a des cultures ethnocentrées et d'autres, et qu'on produit de l'ethnocentrisme par un type de culture pédagogique. Mais encore une fois, ne soyons pas naïfs, l'école en France a été une école... Enfin, il suffit de regarder dans le couloir, il y a une très belle affiche où il y a des exercices militaires des élèves. Je veux dire, il y a eu un discours militant, l'histoire de la République, qui a été surinvesti par Peillon, effectivement, et qui est surinvesti actuellement du côté de l'ennemi intérieur et du côté du fantasme identitaire et de la fictionnalisation autour de qui relèverait de l'analyse de l'anthropologie religieuse sur d'une certaine manière ce qui serait la mise en question de la sacralité, de la pureté, de la transcendance de la République. Regarde tous les problèmes qu'il y a eu sur la question du ministère d'identité, sur le musée de l'intégration, etc. en sont des exemples patents. Voilà. Et peut-être faudrait-il, autre hypothèse de travail et de proposition positive, proposer que justement ces grandes institutions, les musées, etc., dont on se pose la question de savoir ce qu'il faut en faire, le musée de la soie ou les vêtements à Lyon, exactement, eh bien en faire des interfaces avec les lycées professionnels, les enseignements professionnels, parce qu'en France, il y a aussi cette question-là, de la ségrégation à l'intérieur du système scolaire, des propres filières, etc. etc. Mais bon, tout ça, vous le savez mieux que moi.
Je voulais juste rebondir sur le problème des parents, parce que là, sur Grigny, j'ai la chance de travailler dans un collège où il y a vraiment du dialogue avec les parents, mais qui se sentent vraiment perdus. Justement, nous, récemment, mais la semaine dernière, une maman qui me disait « Bon voilà, mon fils a changé, je viens d'une autre région où ça se passait comme ça dans son établissement et je comprends pas pourquoi là j'arrive à Grigny où on me dit Grigny, territoire, ceci, cela et où c'est ouvert, ou etc. et tout. » Il y a des parents qui sont réellement en ce moment très très perdus, ça les fragilise et ça crée aussi, quand ça crée de la souffrance, ça peut créer aussi des relations parfois conflictuelles parce qu'ils arrivent avec des... Ils sont assez crispés, on va dire, il n'y a pas d'autre mot. Et ils ne comprennent pas qu'au niveau de l'institution, il y ait autant de différences entre, dans des gestions d'établissements qui relèvent de l'éducation nationale. Et ça, bon, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez fort en ce moment, quand on en discute avec
vous. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai. Je peux dire quelque chose, Stéphane, ou on arrête?
À toi le mot de la fin.
Bon. Moi, j'ai bien aimé qu'on puisse évoquer le Vistros ici, race et histoire, race et culture, parce qu'il me semble qu'on va d'autant plus vers l'autre qu'on est de quelque part. Mais bon, ça, c'est une idée des d'anthropologues. Hein. C'est-à-dire que le fait d'adhérer à un espace commun est d'autant plus permis qu'on sait d'où on vient. Bon, donc, cette idée de neutralité républicaine, elle est tout à fait passionnante et politiquement, ça a été un outil important, mais je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ça. C'est-à-dire ne pas avoir peur d'aborder la question des identités sous une forme universelle. Hein. C'est parce qu'on est de quelque part qu'on est aussi, on a aussi tous quelque chose en commun, puisqu'on est tous de quelque part. Bon, ça, c'est une première chose importante. Que je sais pas, sur cette question des identités, il faudra que l'école se pose des questions. Elle le fait d'ailleurs. Bon. Le deuxième point sur les parents, c'est vrai que cette difficulté à identifier ce qui est attendu d'eux. Voilà. Alors tout à l'heure, je parlais du partenariat avec les collectivités, mais il y a aussi ce partenariat avec les parents, qu'on appelle famille dans les quartiers et parents ailleurs. Parce qu'il me semble que l'école s'est construite un peu, vous savez, contre ça, contre l'affectif, contre le particulier, contre... Et que du coup, elle engage les parents à venir travailler, et elle le veut d'une certaine façon, ne soyons pas non plus, ne la diabolisons pas, cette école-là. Mais en même temps, il n'y a pas l'espace, il n'y a pas le lieu, il n'y a, y a pas les formes, il n'y a pas la méthode. Et là aussi, on a du travail à faire, et du travail positif, hein, pratique, concret, pour héberger cette relation avec les parents. Quelles que soient les hétérogénéités du territoire. Voilà, bah écoute, j'arrête là. Merci à tout le monde.
Merci à toi.